le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, c'est une des rares femmes à s'être imposée dans le microcosme régional industriel. Nicolas Thibaudot prend sa retraite en fin d'année. La Québécoise est à la tête de l'entreprise MPS Micro Précision Système à Bonfol, Bienne et Cour. Le conseil de ville de Delémont et le conseil général de Haute-Saône se réunissent ce soir. Dans la capitale, on va parler du centime de l'eau qui ne sera pas versé cette année au Nicaragua. À Undervalier, les élus vont prendre connaissance des cas problématiques de matériel abandonné chez des privés. Voilà un mois que le HC Ajoie évolue avec un nouvel entraîneur. Sous les ordres de Greg Highland, les Ajoulots ont décroché 11 points en 10 matchs. En revanche, les hockeyeurs jurassiens peinent à ramener des victoires de l'extérieur. Bilan avec le Canadien dans la page sport. La bise noire est de sortie. Avec elle, nous avons droit à des rafales à 50 km/h et de la pluie, de la neige sur les hauteurs du canton, avec un mercure légèrement négatif à Seignelay-Léger et à peine positif en plaine. C'est une figure de l'industrie régionale qui s'apprête à quitter la grande scène. Nicolas Thibaudot, directrice de la société MPS Micro Précision Système à Bonfol, Bienne et Cour, prendra sa retraite à la fin de l'année. La Québécoise débarquée en Suisse au début des années 90 a su se faire une place dans l'univers industriel régional suisse et même mondial. Elle figure d'ailleurs parmi les trois meilleures femmes CEO de l'année selon le Swiss Economic Forum. Nicolas Thibaudot qui nous parle d'ailleurs de la place des femmes dans l'industrie.
Au Canada, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de femmes ingénieures que peut-être ici. Et dans les entreprises, il y a moins peut-être ce plafond de verre, au contraire. Mais ici, ben, naturellement, quand je suis arrivée, j'ai pris la direction d'une entreprise à la Chaux-de-Fonds. Je pense qu'une femme venant du Québec, ça passait mieux qu'un homme qui venait du bas, tu vois, pour travailler à la Chaux-de-Fonds. Et puis, comme on dit, les quick wins, ça veut dire de mettre en place des actions qui permettent de résoudre des problèmes qui étaient là depuis longtemps, ça permet d'asseoir sa crédibilité. Puis après, il faut aller dans le plus profond, dans le long terme, dans vraiment le travail de fond. Et puis ça, ça l'assoit beaucoup, la crédibilité, que tu sois un homme ou une femme. C'est vrai qu'après que j'ai vendu ma société chez Mécanex, avant de venir ici, chez MPS, je pense que cette période-là, j'ai passé 2 ans où j'avais des conseils d'administration. Certainement que si j'avais été un homme, on m'aurait proposé avant quelque chose, un job. On ne m'a pas sauté dessus. Hein.
Nicolas Thibaudot observe toutefois une évolution positive de la mixité dans le monde industriel depuis quelques années. Gilles Robert, le successeur de Nicolas Thibaudot à la tête de l'entreprise MPS, va d'ailleurs poursuivre cette mission. Un nouveau bancomat explosé, cette fois-ci dans le canton de Berne. Des inconnus ont fait exploser cette nuit un distributeur automatique de billets à Unibar au bord du lac de Boutoun. La police bernoise indique que les malfaiteurs ont pris la fuite en moto avec leur butin. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont 2 machines dans les cantons de Fribourg et de Vaud qui ont été prises pour cible. Il a fallu 3 jours la semaine passée au Conseil national pour adopter le budget 2025 de la Confédération. Une poignée d'heures devrait suffire ce soir à la majorité bourgeoise du Conseil des États pour faire valider son programme. Comme le national, la Chambre des cantons votera une augmentation de plus d'un demi-milliard pour l'armée, mais elle ne la compensera pas de la même manière. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Jubin.
À la différence du Conseil national qui veut que le budget annuel dévolu à l'armée atteigne l'équivalent de 1% du produit intérieur brut en 2030, le Conseil des États devrait étaler l'augmentation jusqu'en 2032. Le budget de l'armée passerait d'un peu plus de 5 milliards l'an à près de 10 milliards. Pour 2025, les deux conseils sont d'accord de l'augmenter de 530 millions. La sénatrice PLR fribourgeoise Johanna Gapani.
On a trouvé les moyens pour atteindre l'objectif d'ici 2032. Le but, c'est pas de donner dans l'armée de manière général, c'est de donner vraiment pour les investissements en matière d'armement. Et puis, on a réussi à trouver un équilibre avec certaines économies dans d'autres domaines où il y avait eu des réévaluations ces derniers mois depuis la réalisation du budget par le Conseil fédéral.
Pour compenser et respecter le sacro-saint frein à l'endettement, à l'inverse du Conseil national qui veut raboter 250 millions dans la coopération internationale, la Commission des finances du Conseil des États n'entend enlever que 30 millions. Par contre, elle prévoit de réduire les moyens sur l'asile de 185 millions. C'est lié à la diminution des demandes d'asile. L'administration fédérale verra aussi ses moyens réduits par la Chambre des cantons. Le Conseil des États devrait s'aligner sur le Conseil national pour ne rien couper dans les paiements directs de l'agriculture, ni dans les crédits aux écoles polytechniques, ni non plus dans le soutien aux sportifs d'élite.
Le Conseil national avait adopté le budget de la majorité bourgeoise par 120 voix contre 73. Le vote devrait être plus net aux États. Les deux conseils devront ensuite trouver des compromis pour éliminer les divergences. Le vote final, qui va se dérouler le vendredi 20, est encore incertain. 2024 devrait être l'année la plus chaude jamais mesurée. Le service du changement climatique de l'Observatoire européen Copernicus l'annonce aujourd'hui. Ce sera probablement la première fois que la barre des 1,5 degrés de réchauffement sera dépassée par rapport à la période pré-industrielle. C'est la limite fixée à long terme par l'accord de Paris. Un record de température avait déjà été battu l'année dernière. Delémont ne versera pas le centime de l'eau cette année au Nicaragua. L'enveloppe d'environ 10 000 francs ne sera pas octroyée en raison de la situation politique dans le pays d'Amérique latine. Le conseil communal l'indique dans sa réponse à une question écrite de l'UDC Dominique Bétic qui sera traitée ce soir au conseil de ville. Alexandre Rosset.
L'exécutif souligne que la mesure a été convenue avec le groupe Nicaragua. L'association Delémontaine mène depuis 35 ans des actions humanitaires dans la ville de la Trinidad en collaboration avec le comité local d'une ONG nationale. Problème, selon le conseil communal, la situation politique ne permet plus de mener des actions d'utilité publique dans le pays. Ce dernier se trouve sous un régime autoritaire, imprévisible et hostile à toute ingérence étrangère. Les organisations non gouvernementales n'ont plus le droit de faire travailler leur personnel dans le pays grâce à un financement provenant de l'étranger. Le montant récolté par le biais du centime de l'eau qui est prélevé auprès de la population de Delémontaine ne sera ainsi pas versé cette année. Il sera affecté au fonds de soutien de promotion de l'eau, souligne l'exécutif. Et la situation sera réévaluée l'an prochain en fonction de l'évolution du contexte politique.
Le conseil de ville de Delémont doit également élire ce soir son bureau pour l'an prochain. Vous entendrez des réactions demain dans la matinale. À Haute-Sorne aussi, un nouveau bureau sera élu ce soir. Les élus ont rendez-vous à 18h30 à Indervelier pour la dernière séance de l'année. Le conseil général doit se prononcer sur le budget 2025 qui prévoit une perte d'environ 750 000 francs. Les conseillers généraux prendront aussi connaissance de la réponse de l'exécutif à une question écrite de Vincent Voyam. L'élu PCSI s'inquiétait du dépôt de matériel en tout genre sur des terrain privé de la commune, ce qui défigure le paysage et peut présenter des risques de pollution. Dans sa réponse, le conseil communal a indiqué qu'il intervenait chaque semaine pour faire respecter les lois dans les domaines de la police des constructions. Trois cas sont toutefois particulièrement compliqués. Michel Léoni.
Le premier concerne une parcelle située à la route de Souls à Courfèvre. Du matériel de construction et des machines de chantier y sont abandonnés. Le propriétaire de ce matériel a vendu le terrain, a fait faillite et a quitté la commune. Le nouveau propriétaire évacuera le site lors des travaux de terrassement à condition que la commune en prenne la responsabilité. Le deuxième cas concerne une parcelle au nord du Tabayon, à Basse-Cour. Le propriétaire a promis qu'il allait faire de l'ordre, mais peu de choses ont bougé depuis, selon l'exécutif qui indique que la procédure va continuer. Le troisième cas, lui, est plus compliqué encore. Il concerne un atelier mécanique situé dans l'espace industriel à Basse-Cour. Son propriétaire a le droit de stocker du matériel inerte puisque le terrain se trouve dans une zone d'activité. Ce qu'il n'a pas le droit de faire en revanche, c'est entreposer des épaves de véhicules sur un terrain non étanche. Et l'individu ne respecte pas cette interdiction. Une procédure est en cours d'après le conseil communal, mais le cas est épineux. La commune pourrait faire place nette par substitution, mais cela lui en coûterait plusieurs dizaines de milliers de francs et récupérer cet argent auprès du propriétaire sera très compliqué parce qu'il se mettra certainement en faillite, déclare encore l'exécutif.
Compte rendu à retrouver dans le courant de la soirée sur rfj.ch. À Porrentruy aussi, le conseil de ville siège cette semaine, ce sera jeudi. Les autorités municipales ont présenté ce matin l'ordre du jour. On vous dévoile le contenu de cette séance dans le journal de 18h. La ligne ferroviaire Moutier-Soleur sera fermée plus longtemps que prévu. Les travaux au tunnel du Weissenstein prennent du retard. Le chantier aurait dû terminer fin 2025, mais la BLS indique ce matin que le délai est repoussé au plus tôt à fin mars 2026. La compagnie ferroviaire précise que ce retard est dû à la friabilité de la roche.
RFJ, il est 12h24.
Sport. Le HC Ajoie progresse, mais il y a encore du travail. C'est le constat dressé par l'entraîneur Greg Ireland qui a posé ses valises à Porrentruy il y a un peu plus d'un mois. Avec le Canadien sur le banc, l'équipe jurassienne a disputé 10 matchs de National League de hockey sur glace pour 11 points récoltés. Le HCA est toujours dernier du classement avec 10 points de retard sur Rapperswil et Lugano. Mais il y a du positif. En plus d'être devenu redoutable à 5 contre 4, il a remporté 6 de ses 7 derniers matchs à la maison. En revanche, les Vouivres voyagent très mal avec une seule victoire en 12 déplacements depuis le début de la saison. Pour Greg Ireland, c'est un des gros points à travailler.
Notre équipe continue de grandir. On doit encore trouver des solutions pour devenir meilleur. Une des priorités, c'est de parvenir à être plus performant à l'extérieur. On doit être capable de respecter notre système hors de chez nous et de mettre beaucoup d'énergie également. Nous devons aussi être plus compétitifs quand les matchs s'enchaînent jour après jour. C'est mon défi avec tout le staff de régler les détails et de tirer ce groupe vers l'avant. On ne peut pas être satisfait de notre situation actuelle. Nous devons devenir encore plus fort. Je vois des joueurs capables de faire la différence et de marquer à certains moments, mais on manque de régularité. Toute l'équipe doit être capable de répéter ses performances soir après soir, d'avoir de la consistance. Je crois que c'est ça mon plus grand défi.
Des propos recueillis et traduits par Michel Léoni. Le HC Ajoie ne rejouera pas avant le 20 décembre et la réception de Bienne, la faute à la trêve internationale qui s'ouvre. C'est un nom de famille bien connu dans le monde du hockey qui débarque en National League. Brendan Lemieux, fils du quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux, rejoint le HC Davos. Si l'attaquant américo-canadien de 28 ans n'a pas le même palmarès que son père, il a tout de même disputé 315 matchs en NHL. Brendan Lemieux s'est engagé pour 2 saisons et demie avec le club Grison, actuel leader du championnat. C'est à l'autre bout du monde que deux Jurassiens s'apprêtent à relever un de leurs plus grands défis. Yanis Jeannerat et Nathan Gigon prendront le départ du championnat du monde de semi-ironman ce dimanche à Taupo en Nouvelle-Zélande. Au programme, 1,9 km de natation, 90 km sur le vélo et un semi-marathon, soit 21,1 km. Le triathlète de Montenol établi à Berne, Yanis Jeannerat, prendra l'avion dans quelques heures pour son premier championnat du monde. Il décrit son état d'esprit à quelques jours de la compétition.
Très très motivé. Très content d'y être. Et puis, je vais prolonger ça avec des vacances. Donc, autant la course que les vacances, je me réjouis des deux. C'est 2 jours de voyage. Donc, c'est pas négligeable. Il y a déjà le décalage horaire qu'il faut prendre en compte, qui est juste énorme. Et puis, les voyages, c'est jamais génial parce qu'on reste figé dans un avion 12 heures, 2 fois d'affilée. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, j'ai mes petites techniques pour essayer de compenser ça, on dira. Essayer de porter des chaussettes de contention. C'est des chaussettes qui serrent un peu les jambes, pour que le sang circule un peu mieux, pour éviter d'avoir les jambes trop lourdes, et puis essayer de rester en mouvement. J'ai dans l'idée d'essayer d'aller courir lors de mon transit à Los Angeles. On verra ce que ça donne si j'arrive à la courir dans l'aéroport. Puis essayer de se mettre directement au rythme de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'au niveau du sommeil, essayer de directement se mettre sur le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande.
Nathan Gigon a lui voyagé samedi déjà. L'habitant de Fontenay participe également à son premier championnat du monde. Lui aussi habitué au podium et victoire régionale, Nathan Gigon se réjouit de se frotter au gratin mondial.
Oui, je pense que sur place, ça va être un peu plus compliqué de viser un podium, effectivement. J'y vais surtout pour prendre du plaisir, puis ben, pour voir ce que je vaux dans un niveau un peu plus international.
Voir ce que vous valez, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être battre vos propres records? Quels sont vos objectifs?
Ben, c'est vrai que l'objectif, ce serait quand même de faire mieux qu'au premier que j'ai fait, donc à Aix-en-Provence, d'essayer de descendre sous les 4h15. Puis un peu plus si affinité.
Nathan Gigon, vous ne serez pas le seul Jurassien présent en Nouvelle-Zélande. Yanis Jeannerat sera à vos côtés. D'ailleurs, on croit savoir que c'est votre petit cousin. Ça peut aider sur place?
Oui, exactement. Ben, effectivement, d'avoir quelqu'un au moins qu'on connaît sur place, c'est toujours cool. On n'est pas si loin l'un de l'autre, donc ça va être une belle bataille aussi contre lui. Puis j'ai hâte de voir un peu qui va passer devant l'autre.
Des interviews réalisées par Marceline Michon. Le championnat du monde de semi-ironman se tient dimanche en Nouvelle-Zélande avec les Jurassiens Nathan Gigon et Yanis Jeannerat. Je vous remercie de votre écoute. Bonne suite de journée.